Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107 FM. Nous sommes le lundi 29 janvier de ce mois qui n'en finit pas, c'est le mois le plus long de l'année, j'ai l'impression, c'est l'hiver, mais on est bien. Il est 8h30 au programme de cette matinale, nous sommes en direct en plateau avec Théo. Bonjour Théo.
Bonjour.
Quel plaisir de t'accueillir, tu es comédien et tu donnes un stage de théâtre les 10 et 11 février à la Fabrique du Viala en partenariat avec la compagnie L'Hiver Nu, on en parle avec toi dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, nous serons par téléphone avec Olaya pour la Fédération des Foyers Ruraux de Lozère et pour parler du festival Contes et Rencontres qui reprend ses droits à partir du 9 février partout en Lozère et on est content. Il y aura de la musique comme d'hab et on y va pour l'édito, j'ai bu trop de café.
Être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. À l'issue d'un épisode inédit qui a vu l'exécutif se défausser sur le Conseil constitutionnel pour éliminer des dispositions nauséabondes qu'il avait lui-même complaisamment validées, reste une loi immigration qui s'en prend violemment aux droits des personnes étrangères. Non seulement le tri opéré par le Conseil constitutionnel laisse subsister près de 2/3 d'une loi marquée du sceau de la suspicion envers un étranger présumé délinquant ou hostile aux principes de la République, mais celles qui ont été écartées ne l'ont été qu'au motif de leur absence de lien direct ou indirect avec l'objet de la loi. Autant dire que cette censure, aussi large soit-elle, ne dit rien de leur contrariété avec les principes constitutionnels. Elle ne peut donc rassurer personne. Le Conseil constitutionnel est satisfait, il a fait son travail. L'exécutif est satisfait, il a sa loi. Les commentateurs de tous bords sont satisfaits. Les uns pensent tenir là l'occasion de crier haro sur la Constitution, les autres de crier victoire après une large censure de la loi. Qui pour évaluer et dénoncer les conséquences à venir pour les personnes étrangères. Des 27 articles du projet de loi initial, quasiment tous épargnés par la censure, auxquels s'ajoute un nombre équivalent de dispositions issues des surenchères xénophobes de la droite sénatoriale et qui restent dans la loi. Un droit au séjour désintégré par des dispositions qui en limitent drastiquement l'accès, le mettant en sursis permanent, ou en dégradant les conditions d'exercice. Des familles qui voleront en éclats sous les coups de boutoir d'une omniprésente menace pour l'ordre public, valant bansin pour les préfets ou du simple fait de la perte du droit au séjour de l'un de leurs membres. Des obligations de quitter le territoire ouvrant la voie à la traque policière pendant 3 ans et un arsenal répressif toujours plus fourni avec une double peine d'interdiction du territoire banalisée. On pense à toi Aziz. Un parcours toujours plus restrictif et expéditif pour les demandeurs d'asile privés de leur droit au moindre accident et pour nombre d'entre eux assignés à résidence ou placés en rétention avant même d'avoir pu déposer leur dossier. Qui se souvient que le gouvernement prétendait intégrer par le travail en donnant à titre de séjour d'un an aux sans-papiers travaillant dans les métiers en tension ? Inutile de souligner qu'il ne reste rien de ce dispositif. Là encore, c'est l'arbitraire des préfets qui fera loi. Une fois passée la colère, il restera à forger les outils destinés dans les tribunaux et ailleurs et à enrayer le fol engrenage qui prend les personnes étrangères pour cible. Théo, toi t'es engagé, quel est ton regard un peu là-dessus ?
Ben, comme d'habitude, hein, ce gouvernement, en fait, il tire de plus en plus à droite. Donc, il tire la couverture de plus en plus à droite parce que de toute façon, il est aux abois et qu'il n'a pas de majorité. Et donc, ça risque de continuer si on le fait pas stopper dans la rue.
Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Oh, yo, yo, yo. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières.
Et oui. On est en plateau avec Théo Botteo, tu es comédien et tu donnes un stage à la Fabrique du Viala les 10 et 11 février prochains, on va en parler, mais déjà, est-ce que tu te souviens quand tu t'es dit pour la première fois j'ai envie d'être comédien, c'est ce métier-là que je veux faire ?
Ah ouais, complètement. Et du coup, ça reboucle avec le stage ado que je donne là, le 10 et 11 février, parce que j'aurais envie, en tant que professeur de théâtre, enfin j'ai envie, et puis c'est ce que je fais depuis 4 ans au lycée Chaptal à l'option, j'ai envie de communiquer cette fougue du théâtre qui m'est tombée dessus à l'âge de 15 piges, quand j'ai vu une mise en scène d'Ivanov de Tchekhov, avec un acteur... extraordinaire, qui commençait seul en scène et toute la pièce de Tchekhov, en fait, il l'avait déroulée. Et puis, en fait, le début, c'était la fin. Ouais, tu vois, ça repartait à l'envers sur la musique de la vie Théodore de Alain Souchon. Et donc, là, il repartait à l'envers et comme si cette histoire d'Ivanov était une histoire sans fin qui se répétait sans cesse. Et l'acteur était... absolument formidable. Quoi.
Ah, t'en as encore les yeux qui brillent, c'est rigolo. Justement, pour y arriver à faire ce métier, c'est quoi ton parcours ?
Mon parcours, en fait, c'est de d'abord me demander beaucoup quand je suis au lycée. Je suis en filière S, scientifique, et en fait, je fais autant, voire plus de théâtre que de science à cette époque-là. Je suis dans tous les cours qui peuvent exister, tous les ateliers qui peuvent exister, celui du lycée, en dehors du lycée, et j'en fais énormément, énormément, et à un moment donné, ça passe plus. Donc, je décide de me réorienter complètement, et j'ai décidé de faire d'une passion ma vie, donc je fais des études de théâtre, conservatoire, fac de lettres aussi, ça m'a énormément apporté, et c'est un complément, à mon avis, qui est indispensable, enfin, qui est assez solide quand même. Et ensuite, master d'assistant à la mise en scène à Poitiers.
Et bim, voilà. Est-ce que tout le monde peut être comédien ? Ou comédienne, d'ailleurs ?
Ouais. Enfin, tout le monde. Oui, enfin, comment dire ? Moi, je pense que c'est beaucoup de travail, en fait. Et qu'il y a souvent tromperie sur la marchandise. On pense que c'est une histoire de talent, en fait. Pas du tout. Le comédien et la comédienne, en fait, ils passent son temps, même dans des moments de distraction, à enregistrer le réel, en fait. À enregistrer les émotions que les gens mettent quand ils racontent une histoire, etc. Et je dis souvent à mes élèves, en fait, si vous voulez devenir bon, en fait, il faut enregistrer. Il faut faire des photographies mentales des émotions que vous traversez, des émotions que vous voyez traverser. Et puis, pas avoir peur, tout seul, devant son miroir, de refaire un petit peu, d'essayer de voir ce que ça fait que de faire une peur, de faire une grosse colère. Parfois, on voit des gens piquer des colères. Et en fait, c'est hyper inspirant en termes d'émotion pour pouvoir ensuite jouer un personnage.
Est-ce que le plus compliqué quand on devient comédien, comédienne, est-ce que tu en parles en stage ? On va en parler, hein, évidemment, du stage. Il y aura aussi une représentation, je crois, le dimanche après le stage. Est-ce que le plus compliqué, c'est de se produire en public ?
Ouais, ça c'est compliqué. Mais je dirais que moi, en tout cas, c'est la manière, la méthode que j'ai et que je partage avec Claire et Baptiste de Liverny. De dire, en fait, il faut toujours qu'il y ait une présentation, même si elle est avec, à chaud, avec ce qu'on a fait, etc. Donc nous, en tant qu'intervenant, enfin moi, en tant qu'intervenant, je sécurise toujours les ados pour qu'ils arrivent sur scène bien, mais il faut toujours qu'il y ait une présentation, parce qu'en fait, c'est capital, même si ça fait peur, etc. C'est capital, en fait, ça fait partie du théâtre.
Est-ce que, justement, tu abordes cette notion de gestion du stress, est-ce que ça fait partie, ou alors tu dis simplement, lâchez-vous, allez-y, quoi.
Bon, c'est un peu des deux, en fait. Ouais. C'est toujours un peu des deux. S'il n'y a pas de... En fait, il y aura toujours un moment où on se lâche. Parce que le moment où, si tu veux, on met le pied en dehors des coulisses, forcément, il y a un truc qui se relâche. Tout le monde le dit, que quand on met le pied sur scène, finalement, le trac, il s'en va, en fait.
Ouais, c'est ça, l'adrénaline qui débarque, c'est un truc de fou. Et le corps humain, pour ça, est très bien fait. Parlons du stage que tu donnes, donc, les 10 et 11 février prochains. Précisons donc que c'est pour les ados. Alors, quand j'ai vu de quoi il s'agissait, je me suis dit, oula, la folie de prendre et de travailler sur ce thème. Mais à la fois, c'est génial, puisque le stage portera sur un texte sur la réunification des deux Corées. Comment t'es arrivé à vouloir travailler ce texte-là sur scène ?
Alors,
avec les ados, je veux dire.
Parce que pour moi, c'est un texte qui est parfait pour ça. C'est un texte, en fait, qui, pour présenter rapidement, c'est de multiples scènes qui s'enchaînent, qui sont indépendantes les unes des autres, et qui sont des variations singulières sur l'amour et les relations d'amour et d'amitié. Et ça questionne l'engagement à l'autre, que ce soit un engagement désiré, subi, fantasmé, oublié. Et du coup, pour la petite histoire, du coup, dans un de ces textes qui s'appelle Mémoire, En fait, il y a un couple qui marche dans un parc. Et elle semble ne pas se souvenir qu'ils sont mari et femme.
Oh.
Et en fait, c'est le cas. Hein. Et lui, il vient lui affirmer qu'il s'aime depuis plusieurs années. Et en fait, elle est devenue amnésique. Et elle oublie tous les matins ce qui s'est passé la veille. Et lui, en amoureux passionné, même si ça le fatigue énormément, on le sent dans sa manière de laquelle il parle, lui, il vient chaque jour lui raconter comment ils se sont aimés. Parce qu'Hélène en a besoin pour comprendre et pour avancer. Et en fait, il lui dit, en tant qu'amoureux fou, que quand ils se sont rencontrés, c'était comme si la Corée du Nord et la Corée du Sud ouvraient leurs frontières et se réunifiaient. Et que c'était la fête. Et qu'on sentait qu'il et elle étaient reliés et que ça remontait à très très loin.
Ouais, c'est beau, ouais.
Voilà.
Et puis, qu'est-ce qu'on rêve de la réunification des deux Corées, hein. Précisons, auditeurs, auditrices, hein, que c'est un texte de Joël Pommerat, c'est ça, hein, si ça vous intéresse, d'aller le lire ou aller à la représentation du dimanche donc 11 février, ce sera à 18h, c'est ça.
Yes.
Alors concrètement, comment ça va se passer ce stage? Comment tu vas travailler avec les ados sur ce thème?
Eh ben, en gros, le samedi matin, on prend le temps de se rencontrer à partir de 9h avec des petits exos simples et ludiques. On fait un groupe. Donc, tout va être condensé, puisque c'est deux jours. Donc, pour ceux et celles qui ont l'habitude de faire, par exemple, des ateliers au long cours, il faut imaginer que tout ça, ça va être condensé en deux jours. Et que c'est aussi le plaisir qu'on va prendre. Ça va aussi naître du condensé de ces deux jours. Donc, on va se rencontrer le samedi matin. Puis, en fait, on va lire les scènes. Ceux et celles qui ont envie, direct, tu vas leur dire, on y va, on va au plateau, on essaye la scène, on essaye de la jouer. Et l'idée, c'est de la décortiquer, cette scène. Voilà, on va faire entre 2 et 5 scènes, en fonction du nombre d'inscrits, en fonction des envies, etc. Et l'idée, c'est de la décortiquer, d'en faire une sorte de canevas. Et ensuite, on va laisser tomber le texte, et puis on va jouer à partir de la situation. Et c'est des scènes qui sont vraiment faites pour ça. Vraiment faite pour être... En fait, Pommerat a écrit des scènes qui, en 2-3 répliques, on comprend que les personnages ont des parcours qui viennent s'entremêler. Et en fait, ensuite, c'est indémêlable. Il y a une situation qui se crée. Et ça fait tout le théâtre, en fait. Enfin, en tout cas pour moi, et c'est ça le plaisir de jouer pour moi.
Ça fait sens. Et puis tout ça, ce sera sur un formidable terrain de jeu, puisque ce sera à la Fabrique du Viala. Comment elle s'est passée justement la rencontre avec la compagnie L'Hiver Nu ?
Eh ben, très agréable, ça a été juste à la sortie du confinement. Je me rappelle très bien, il y avait un banquet qui était organisé. Alors c'était un banquet un peu spécial par rapport aux autres banquets qui ont eu lieu après par la suite et qui ont lieu en ce moment. C'était un banquet à comité un peu restreint. Il y avait un petit peu les habitués, les banquistes, c'est comme ça qu'à L'Hiver Nu on les appelle. Et donc c'était très agréable, moi je me suis présenté tout ça, et en fait ça a vachement bien marché, matché avec Claire et Baptiste, et du coup quelques semaines plus tard, en fait ils cherchaient quelqu'un pour l'option du lycée Chaptal, pour être intervenant en tant qu'artiste, faire travailler les élèves, et en fait moi j'ai posé ma candidature, du coup on s'est revus un peu plus formellement, et en même temps c'est toujours très agréable de travailler avec eux. Voilà.
Et puis l'occupation du théâtre de monde aussi avec eux. On va revenir un peu sur le thème et la réunification des deux Corées, mais aussi qu'on continue de parler d'engagement. Je dis ça parce que tu aurais pu partir sur un thème plus léger, mais bon, c'est tout toi, hein. Tu es une personne engagée. C'est donc par ce prisme-là que tu l'as choisi. Est-ce que les arts en général doivent être engagés politiquement?
Oui.
Est-ce qu'un artiste a l'obligation d'être engagé?
En fait, il n'y a pas d'obligation là-dedans. Après, c'est une posture pour moi qui est nécessaire et juste. Je ne pense pas que ce soit possible de se positionner en dehors de la société complètement. Voilà, en fait, c'est qu'un jeu d'aller-retour. Hein. C'est une présence qu'on ne peut pas. En fait, on ne peut pas l'effacer. Le spectateur et la spectatrice, aujourd'hui, rentrent dans une salle de théâtre avec tout le réel qu'il habite. Et en fait, penser qu'il va pouvoir en faire complètement... Mais si, bien sûr, parce qu'à un moment donné, plonger dans la fiction, il peut en faire abstraction de ce réel. Mais en même temps, ce réel l'a tellement construit et est tellement derrière, à l'affût, que ces représentations mêmes vont être nourries de ce réel et il n'y a pas d'échappatoire pour moi.
Après, je dis ça aussi parce que il y a des artistes qui prennent pas la parole sur certains sujets, d'autres qui la prennent trop. Alors, ceux qui la prennent trop, on leur reproche. Ceux qui la prennent pas, on leur reproche. C'est quoi le juste milieu pour toi, justement?
Moi, je considère que dans le théâtre, bon, ça, c'est d'expérience personnelle. Hein. Je suis metteur en scène. J'ai monté un spectacle sur la catastrophe de Tchernobyl. Et souvent à l'époque, alors c'est plus le cas, ne me posez pas trop de questions techniques parce que tout s'oublie vite. Mais à l'époque, je disais que je faisais partie des 1000 personnes qui connaissaient le mieux le sujet en France. Voilà. Et pour moi, mais parce que je fais un théâtre documentaire, donc en fait, qui est très en prise avec le réel et sur des sujets comme celui-là, je pense que, donc pour répondre à ta question, sur les sujets au moins qu'on traite sur scène, moi, je ne supporte pas l'idée qu'on puisse être pris au dépourvu d'une question, être inexact sur quelque chose, etc. Et j'estime qu'il y a une forte connaissance du sujet qui doit être apportée par l'artiste, parce que forcément il va le mettre sur scène, cette connaissance-là, on s'en fiche. Au final, je revendique le droit à faire de la fiction, à raconter des histoires, et parfois des histoires qui n'ont rien à voir avec des histoires qui ont été vécues, mais qu'il ne soit pas possible de nous attaquer sur la méconnaissance d'un sujet parce que c'est celui dont on traite. Et bon, voilà, moi je fais un théâtre documentaire, donc forcément la parole et les sujets qui sont traités, en tout cas dans mes pièces, dans les pièces que je monte avec des professionnels, pas toujours avec les amateurs, je fais pas toujours du théâtre documentaire, mais en tout cas j'estime que tu as la responsabilité de maîtriser ton sujet. Et après, en dehors, bon, si c'est sur d'autres questions, je comprends qu'il y a des artistes qui veuillent pas parler de tout, parce qu'en fait, on n'est pas tous et toutes en capacité d'avoir un discours. Il y a des associations qui mènent des combats sur tel ou tel sujet qui en parleront mieux que n'importe quel artiste. Néanmoins, comme aujourd'hui, je suis invité à une radio. Donc forcément, il y a des sujets sur lesquels je me prépare à parler. Quoi.
Tu m'étonnes. Justement, est-ce que tu as des projets, toi, à venir dans l'année qui vient ou à moyen terme?
Eh bien, à moyen terme, je vais te raconter que en décembre dernier, j'ai donné une formation au théâtre documentaire. C'est théâtre documentaire au service des transitions agroécologiques à Supagro, à l'Institut Agro de Florac. Et moi, j'ai bien envie. En fait, ça va se poursuivre l'an prochain, voilà. Donc ça, c'est super chouette. Et voilà, donc ça, j'ai bien envie de poursuivre ça et surtout de le développer aussi en lien avec les profs, en fait, parce que c'est une formation à l'adresse des profs pour utiliser
les outils
du théâtre, voilà, c'est ça, dans les classes pour parler de transition agroécologique. Et parce que je fais partie de ceux et celles qui pensent que oui, ça peut apporter quelque chose, en fait.
C'est sûr. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, est-ce que tu peux définir le théâtre documentaire? Est-ce que c'est possible?
Oui, bien sûr. Le théâtre documentaire, c'est un théâtre, comme son nom l'indique, qui part d'autre chose que du texte de théâtre de fiction écrit par un auteur. Qui part de documents, donc qui va, en fait, c'est faire théâtre avec autre chose qu'un texte de théâtre. Bon, ensuite, ça a beaucoup évolué depuis un siècle, donc nous, on appartient à le théâtre, en tout cas que je fais au sein de ma compagnie Cortège de Tête, appartient à une filiation très particulière. Hein, c'est un théâtre documentaire, mais qui à un moment donné passe par la fiction pour raconter ce dont il est question, mais c'est toujours une tension entre le document, la vérité des sources et finalement ce qu'on raconte, qui est toujours de la fiction, parce que même dans les théâtres documentaires absolus où l'acteur est un protagoniste du fait réel, même dans ces moments-là, il y a un passage par le filtre de la fiction de toute façon, parce qu'on est dans un théâtre et que ça raconte déjà autre chose que l'acteur, même s'il est le témoin de l'histoire réelle qui s'est faite, cet acteur, en fait, il reproduit ça tous les soirs. Donc il y a toujours l'idée, la suspicion derrière, qui est un peu de la fiction, quoi. Voilà, donc c'est partir, partir du réel, partir d'autre chose que du texte lui-même, avec une exigence très très forte de garder trace du passé et des événements passés dans un souci, je caricaturerais comme ça, dans un souci que l'histoire ne se répète pas.
Ouais. C'est ambitieux comme projet.
Ouais.
Oui, donc en fait, c'est tiré quelque part, si j'ai bien compris, des ficelles du travail journalistique, en fait, pour arriver tout doucement vers le travail de comédien, comédienne.
Ouais, exactement.
J'essaye de résumer. C'est vrai que je ne connaissais pas ce pan-là du théâtre documentaire, c'est passionnant. Revenons au stage, les infos pratiques, c'est combien et comment on s'inscrit ?
C'est 50 à 80 euros, c'est un prix qui est en conscience, c'est en fonction de nos moyens. Voilà, comment on s'inscrit ? On peut envoyer un mail à contact@livernu, tout attaché, donc livernu.com, donc contact@livernu.com, ou appeler le 04 66 45 56 47.
Je mets évidemment, auditeurs, auditrices, tous les liens sur notre site dans un instant. Et le site, je crois que c'est livernu.com. Hein,
oui, c'est ça.
Il y a tout ce qu'ils font. Il y a d'autres choses aussi. Ils proposent énormément de choses. Et c'est une scène. C'est une compagnie complice des scènes croisées. Donc effectivement, en Lozère, j'en entends quand même pas mal parler. Et les stages, c'est deux jours, c'est les 10 et 11 février, c'est de 9h30 à 17h30. À midi, c'est quoi ces repas
oui,
partagés?
Oui, c'est ça, c'est pique-nique, il faut amener son pique-nique.
Mmh. Voilà. Si ça vous intéresse, la tranche d'âge, c'est 13-16, c'est ça? 13 ans, 18 ans.
13 ans, 18 ans.
18 ans. N'hésitez pas à contacter la compagnie de l'Hivernu si vous êtes intéressé. Merci beaucoup, Théo.
Ben, merci à toi.
Bonne route à toi et puis à très très vite. Dans un instant, on sera par téléphone avec Olaya pour les festivals Contes et Rencontres. On écoute d'abord Pink Floyd. Vous êtes bien sûr Radio Barthes. Beyond the horizon of the place we lived when we were young. Constantly and without boundary, the ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still be there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps. Running before time took our dreams away. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground. To a life consumed by slow decay. The grass was greener. The light was brighter. Glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide. We'll be right back. Vous êtes bien sûr Radio Bartas et pour la Fédération des foyers ruraux de Lozère, nous sommes avec Olaya, bonjour.
Bonjour.
Le festival Contes et Rencontres revient, c'est du 9 au 18 février pour sa 33e édition quand même. Alors sous quel signe il est placé ce festival cette année ?
Alors ce festival, aujourd'hui, il intervient avec un fil conducteur qui est de se questionner un petit peu autour du paradigme « qu'est-ce que c'est d'être d'ici ou d'ailleurs ?»
C'est très vaste comme question.
C'est très vaste. C'est vrai qu'il y a des spectacles qui vont donc questionner un petit peu sur qu'est-ce que, sur, notamment avec Olivier de Robert, il y en a qui font voilà leur valise pour partir là-bas, d'autres qui les ont posées ici en arrivant. Mais ce qui est sûr, c'est que nous venons tous de quelque part.
Le 17 février, Olivier de Robert sera à Bédouès. Alors nous sommes à une quinzaine de jours du festival. C'est la dernière ligne droite. Ça y est, tout est prêt ou presque?
Oui, on finalise quelques logistiques, mais oui, on est prêt à accueillir tous ces conteurs, tous les publics qui vont participer à cette 33e édition. Mmh. Et donc, on a hâte, tous les foyers sont prêts.
9 spectacles joués à différents endroits, sauf évidemment la soirée d'ouverture et la soirée de clôture. 25 lieux, c'est une sacrée organisation tout ça. Comment elle s'est faite, la programmation ?
Alors on commence l'année d'avant déjà, donc à partir de mars 2023, à prospecter avec un collectif de programmateurs qui sont des passionnés, des bénévoles passionnés du conte, mmh. également les salariés. Et donc on a aussi finalisé notre édition avec notamment en participant au Festival d'Avignon. On participe également aussi à des journées professionnelles et voilà, donc on collabore surtout avec tous les foyers ruraux qui co-accueillent ces soirées, qui sont à peu près plus d'une quarantaine de foyers ruraux. Et donc c'est une assez grande logistique à avoir.
Ouais, c'est génial d'avoir ça en Lozère. Allons-y pour la soirée d'ouverture. Alors c'est assez rigolo parce que le festival commence le 9 février avec Heureuse qui comme Armel, ça ce sera Nasbinal. Mais la soirée d'ouverture c'est avec Daniel Villanova et ce sera sur le Cosmé-Jean, c'est bien ça?
Exactement. En effet, on a réduit un petit peu le festival qui se passait normalement sur 2 semaines. Mais comme on s'adapte toujours aussi aux demandes des foyers ruraux qui co-accueillent les soirées, il y avait des foyers qui souhaitaient le faire pour notamment des élèves, mm-hmm. notamment pour Saint-Étienne-Vallée-Française. Nasbinal également, donc on a délocaliser l'ouverture, on va dire, à un jour avant. Donc c'est 11 jours finalement de festival.
Ouais, c'est beau. Donc la soirée d'ouverture, ce sera Daniel Villanova. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ?
Alors Daniel Villanova, il va vous proposer le spectacle Bourignon Speaks Molière, mmh. qui va donc tourner également à Fournelles le dimanche et à Langlade le mardi. Mmh. C'est un spectacle qui est drôle, émouvant, qui est ça nous permet de passer un beau moment. Ça sort un petit peu du conte traditionnel, mm-hmm. mais c'est aussi ça, conte et rencontre. C'est une ouverture en fait à d'autres types de disciplines de l'art de la parole.
Mmh. Alors on va pas pouvoir parler de tous les spectacles. Vous retrouvez toute la programmation sur lozere.foyersruraux.org, mais peut-être juste un ou deux focus sur certains d'entre eux, Olaya.
Alors on a également Frédéric Lanor qui d'ailleurs vient aujourd'hui pour faire un stage qui est en amont du festival Contes et Rencontres, mm-hmm. Et accompagne donc des conteurs amateurs. Donc on essaye d'accompagner sur scène et qu'on les lance donc dans la première partie de notre festival, mm-hmm. lors de la clôture pardon, qui a lieu à Chanac le 18. Ouais. Et donc son spectacle c'est le diable, pardon, quand le diable se gratte l'oreille. Mm-hmm. Et c'est des contes du Liverdois et du reste de l'Auvergne pour mettre dans ce festival au cœur des contes de l'art traditionnel du conte. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire un mot justement sur le premier spectacle hein, qui jouera aussi Heureux qui comme Armel, c'est ça ?
Oui, Aurélie Péglion, donc c'est un conte qui revient sur l'aventure d'Ulysse, et donc d'une façon où elle lit le conte et le clown. Donc c'est un spectacle jeune public qui va avoir lieu donc à Nesbinal, Le Monastier, Bagnoles-les-Bains, et je vous assure que vous allez passer un très bon moment. Avec Aurélie, parce que c'est léger, c'est drôle, c'est étonnant, c'est voilà, c'est revoir l'histoire mais d'une façon très différente dont on a étudié à l'école, j'ai envie de dire.
Oui, et puis auditeur, auditrice, à moi qui ai la chance de le faire depuis quelques années maintenant, ce festival, allez voir ces spectacles, c'est à chaque fois surprenant. Hein. C'est vraiment la Lozère, les Cévennes sont réellement une terre de contes, c'est pour faire perdurer cette tradition que le festival existe.
Pardon, j'ai pas entendu.
Je disais que la Lozère et les Cévennes sont réellement une terre de contes, c'est pour faire perdurer cette tradition que ce festival existe.
Exactement, c'est une terre de transmission aussi, c'est important la transmission de ce savoir, transmission des savoir-faire, des savoir-être, la transmission de valeurs, et ça se fait très bien à travers le conte, et aussi à travers les arts du récit, en fait. L'art de la parole est central, en fait, dans toutes les civilisations du monde. Mais voilà, c'est un véhicule pour transmettre ce savoir qui interroge les grandes interrogations du monde, j'ai envie de dire.
Difficile d'y répondre parfois, mais on peut trouver quelques réponses à travers le conte. Alors, on nous raconte ou on raconte des histoires depuis qu'on est tout petit. Est-ce que toi, tu te souviens d'une histoire qu'on te racontait quand tu étais petite ?
Question piège. C'était très classique. J'avoue que moi, le conte, je l'ai découvert il y a 3 ans quand je suis arrivée en Lozère. Ah. Alors bien sûr, je voyais j'allais avoir des spectacles, etc. Mais l'art du conte, je l'ai plutôt découvert quand je suis rentrée dans la Fédération des foyers ruraux. Mm-hmm. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec ce conte ? C'est incroyable, tous ces bénévoles qui étaient... Qui se retrouvaient, et le public qui se retrouvait autour de ces spectacles de contes, que moi je pensais d'ailleurs qui étaient plutôt pour enfants, mais j'ai découvert toute une autre façon de présenter ces contes pour adultes, en fait. Sans oublier, à chaque fois on essaye de pas oublier les enfants avec un spectacle jeune public, mais...
Alors justement, parlons de ce spectacle jeune public, il aura lieu quand et où ?
Alors, Heureuse qui comme Armel, elle aura lieu à...
Ah, c'est pour les enfants alors, d'accord.
Pardon, j'ai pas entendu.
C'est pour les enfants.
Alors, c'est un spectacle jeune public, mais il s'adapte vraiment à tout le monde. Mm-hmm. Mais oui, c'est à partir de 6 ans. Mm. Donc, au jeune public, pourquoi ? Parce que du coup, l'aventure d'Homère, ça parle vraiment à... C'est à ce moment-là qu'il commence à l'étudier à l'école, donc c'est pour ça, mais ça parle à tout le monde parce qu'on a tous étudié cette histoire et on les a tous un peu racontés à travers des livres.
C'est vrai.
Mais donc il a lieu à Nesbinal le 9 février, le jour avant la clôture à 19h.
Avant l'ouverture, ouais.
Exactement. Mmh. Le Monastier, le jour de l'ouverture, donc le 10 février à 18h30. Et à Bagnoles-les-Bains le 11 février à 15h.
Et alors toujours le final tel un feu d'artifice, ça ce sera à Chanac le 18 février. Donc on a parlé de la première partie avec les conteurs en herbe, mais que pourra-t-on y voir juste après ?
Alors c'était une envie vraiment de ramener le conte comme l'éveillé d'antan, où on se retrouvait autour d'un feu. Alors je vous rassure, il n'y aura pas de feu sur scène, mais où les conteurs qui auront déjà participé lors du festival, donc Malika, Verlaguet, Olivier de Robert, Nicolas Bourdon et Frédéric Lanor, vont se retrouver sur scène pour une soirée un peu différente. Alors ils ne vont pas présenter leur spectacle en tant que tel, mais ils vont venir plutôt avec leur répertoire, comme avant en fait, et selon la magie du moment, l'envie du public, ils vont raconter des histoires sur scène pendant à peu près 1h30. Voilà.
C'est génial. Alors évidemment, un tel festival demande des partenaires. Qui sont les partenaires de ce festoche ?
Alors, c'est bien que tu le dises. En effet, ce festival, il pourrait pas avoir lieu sans le soutien financier de nos partenaires, le Conseil départemental de la Lozère, le Parc national des Cévennes, bien entendu, la région Occitanie, la direction, la DRAC, donc la direction aussi des services départementaux de l'éducation nationale de la Lozère, la Caisse commune de sécurité sociale et sans oublier nos partenaires privés, Groupama, Enedis, Crédit Agricole, Hyper-U et Giro Automobile. Et donc, bien sûr, aussi les foyers ruraux qui co-accueillent les soirées, qui sans eux, ça serait impossible de porter un tel festival.
Pourvu que les mécènes et les services publics continuent de financer le spectacle vivant. Allons-y pour les infos pratiques, les tarifs en général, les réservations, comment ça se passe?
Alors, dans la brochure du festival que vous retrouvez sur notre site internet, il y a un numéro de téléphone sur chaque soirée avec le numéro du foyer qui accueille la soirée, sauf pour l'ouverture et la clôture, c'est à la Fédération des foyers ruraux, donc au 04 66 49 23 93 ou la billetterie en ligne sur notre site internet. Et c'est à peu près entre 6 et 12 euros avec une tarif réduit pour les adhérents aux foyers ruraux et aussi les moins de 26 ans, les plus de 65, les demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA.
Lozère.foyerruraux.org, je mets évidemment tous les liens sur notre site internet dans un instant. Merci beaucoup Olaya.
Merci à toi.
Je vous souhaite un excellent festival. C'est du 9 au 18 février dans toute la Lozère. Vive les histoires et vive les contes. Bonne journée Olaya, à bientôt.
Merci, bonne journée à tous.
C'est la fin de cette matinale, les 10 et 11 février, un stage de théâtre mené par Théo. C'est 2 jours pour monter des petites scènes sur la réunification des deux Corées de Joël Pommera. Pour vous inscrire, livernu@gmail.com, je mets tous les liens sur notre site dans un instant. C'est la fin de cette matinale, on se retrouve mercredi avec l'assaut 48 de cœur, mais aussi avec les créatrices de l'Escape Game sur les perturbateurs endocriniens auxquels vous pourrez jouer pendant le festival Floracopolis, c'est ce week-end déjà. Restez bien sur Bartas, on n'y est pas trop mal. À très vite, ciao.